celle derrière la porte de la collection Flash Fiction, écrit par Agnès Laroche.
Un hibou en chemise de nuit. Je me suis décidée, juste après le dîner, tout à l'heure, quand monsieur et madame Pénible dormaient, j'irai ouvrir la porte mystérieuse, la porte verte. Celle qui, depuis mon arrivée chez eux, une semaine plus tôt, restait fermée et me faisait un drôle d'effet à chaque fois que je passais devant. Quand j'avais demandé ce qu'il y avait derrière, à monsieur et madame Pénible, ils avaient haussé les épaules.
Oh, du bric-à-brac ! Rien d'intéressant, avait-il prétendu. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais je n'y croyais pas. Deux jours après, j'avais tenté à nouveau avec madame Pénible. Oh, du bric-à-brac ! Rien d'intéressant, avait-elle répondu sur le même ton. Il me prenait pour une débile ou quoi ?
Du coup,
elle m'intriguait encore plus cette porte. Il fallait que je l'ouvre. Sauf que je n'étais jamais seule dans la maison. Les vrilles étaient toujours du genre super collants. Il ne me restait donc qu'une seule solution, la mission nocturne.
À 22h, ils sont venus me dire « Bonsoir, Émilie, dors bien !» Je leur ai répondu d'un vague hochement de tête et j'ai éteint la lumière. Enfin, juste quelques minutes. Quand il n'y a plus eu de bruit à l'étage, j'ai rallumé. Ensuite, j'ai attendu que l'horloge du salon sonne 12 fois. 12 coups sinistres qui ont résonné dans toute la maison. Pas terrible comme ambiance, mais j'étais décidée.
Je suis sortie de ma chambre en silence. J'ai regardé à droite, puis à gauche. La voie était libre. Les bras tendus pour ne pas me cogner, je me suis avancée dans le couloir sombre en chaussettes.
Une fois devant la porte verte, le souffle suspendu, j'ai posé ma main sur la poignée et je l'ai tournée doucement. Elle était fermée, archi fermée. J'ai froncé les sourcils. Pourquoi les pénibles avaient-ils besoin de garder sous clé du bric-à-brac, rien d'intéressant. Bizarre, non? Hyper louche, même. J'ai collé mon oreille à la porte et j'ai aussitôt reculé, effrayée. Je venais d'apercevoir comme un souffle, un déplacement, carrément flippant. Et s'il y avait dans cette pièce quelque chose qu'il ne voulait pas que je voie, quelque chose ou quelqu'un, mon cœur s'est mis à battre plus vite.
Tendu, j'ai fait demi-tour en marchant comme une somnambule lorsque, soudain, j'ai poussé un hurlement. Madame Penny venait de surgir devant moi, comme un hibou assoiffé de sang, prêt à se jeter sur sa proie. Elle a allumé la lumière.
« Émilie, qu'est-ce que tu fabriques debout à une heure pareille » a-t-elle grondé. « File vite te coucher. »
Et elle, qu'est-ce qu'elle faisait debout à une heure pareille? Comme par hasard, pile au moment où je rôdais autour de la porte verte, elle craignait peut-être que je parvienne à l'ouvrir.
Qu'est-ce qu'elle m'aurait fait, hein, si j'avais réussi?
Mais pas question de me laisser impressionner par un hibou en chemise de nuit.
Cette porte, je l'ouvrirai, j'aurais craché, et rien ni personne ne m'empêcherait de dévoiler au monde entier le secret qui se cachait sûrement derrière, celui de monsieur et madame Pénible.
Deuxième chapitre. Non merci. J'ai foncé dans ma chambre en frissonnant. Je me suis vite recouchée. Je me suis tournée et retournée au moins 100 fois dans mon lit, incapable de m'endormir. Je me demandais ce que complotait Alfred et Josaphat Planquette, ma famille d'accueil, derrière la porte verte. Alfred et Josaphat, tu parles des prénoms affreux, sans doute, inventés rien que pour eux. Moi, je préfère les appeler Monsieur et Madame Pénible. Ça leur allait tellement bien.
Monsieur Pénible passait son temps à m'interdire tout et n'importe quoi. Pas le droit de me coucher après 10 heures, pas le droit de dire un gros mot, pas le droit de regarder la télé, ni d'aller sur Internet pendant les semaines, et même pas le droit d'oublier de faire mes devoirs. Pas question non plus de laisser mon lit en désordre ou d'oublier le linge sale sur la moquette. Pénible.
Quant à sa femme, ce n'était pas mieux. Elle préparait les pires repas de la planète. Des légumes tous les soirs en gratin, en sauce, à la vapeur, en terrine, en salade. Des légumes toujours. Des légumes et obligation de finir mon assiette. Pour la douche, n'en parlons pas. Une par jour, minimum, pas de discussion. Sans oublier le brossage de dents le matin et le soir et l'obligation de lire un vrai livre avant de m'endormir. Pénible.
Ils avaient beau accueillir des enfants comme moi depuis 15 ans, ils n'y connaissaient rien. Mais alors rien de rien. Et la directrice du foyer des mésanges, l'orphelinat où je vivais, depuis toujours, m'avait raconté n'importe quoi.
Tu verras, Émilie, grâce à monsieur et madame Planquette, tu vas découvrir la vie d'une famille et j'espère que vous ferez un bon bout de chemin ensemble.
Ah oui, mais je n'avais rien demandé à personne, moi. J'étais heureuse au foyer des mésanges. Au moins là-bas, on me laissait tranquille. J'y faisais ce que je voulais quand je voulais. Personne ne se souciait de savoir si j'avais pris ma douche ou si j'avais terminé mes exercices de maths. Ils n'avaient pas le droit de manger des pâtes à volonté tous les jours.
Et même si parfois je me sentais un peu seule, j'avoue, au moins, j'avais des amis pour me remonter le moral.
Alors que maintenant, j'étais coincée ici dans ma famille d'accueil. Non, merci.
Oh, bien sûr, monsieur et madame Pénil essayaient de jouer les gentils, de m'attendrir. Mais c'était sans doute pour mieux se servir de moi par la suite. Parce que non seulement ils étaient pénibles, ces deux-là, mais ils étaient louches avec leurs portes fermées à clé. Ça se trouve, tous les enfants qu'ils avaient accueillis jusqu'ici étaient encore là, prisonniers, réduits en esclavage.
Mais moi, je ne me laisserai pas faire. Parole d'Émilie. Juste avant de m'endormir, les paupières lourdes, j'ai eu l'idée simple et lumineuse. Pour ouvrir la porte, il me suffisait de trouver la clé.
Quand je me suis levée vers 9h30, j'ai trouvé un mot sur la table de la cuisine. Émilie, nous sommes partis faire les courses. Nous serons de retour à 10h30. Yes, la chance était avec moi. Je pouvais mettre mon plan en exécution sans attendre. Dans chaque pièce de la maison, j'ai ouvert tous les placards, tous les tiroirs.
Je n'avais qu'une petite pause pour regarder une dizaine de cadres dans l'escalier. Dans chacun d'eux se trouvait une photo de monsieur ou madame Pénible, accompagnée d'un enfant différent qui souriait de bon cœur, à la piscine, à la campagne, devant un gâteau d'anniversaire. Sans doute les garçons et les filles qui m'avaient précédé, des orphelins comme moi.
Si ça se trouve, ces photos, elles étaient truquées pour faire croire à tout le monde qu'ici, c'était la maison du bonheur, alors qu'en réalité...
J'ai fini par récolter 17 clés. L'une d'elles, j'en étais sûre, était la bonne. Quant à ce qui se trouvait derrière la porte, j'en frissonnais d'avance. Peut-être des enfants prisonniers nourris à l'eau et au pain sec, ou alors des instruments de torture que les pénibles fabriquaient eux-mêmes et qu'ils avaient l'intention de tester sur moi. Rien que d'y penser me donnait la chair de poule.
Ce qui était sûr, c'est que lorsque j'aurais enfin découvert ce qui se cachait derrière la porte verte, je me précipiterai sur le téléphone, j'appellerai la directrice du foyer et je supplierai. Vite, venez me chercher, je cours un terrible danger.
La police s'en mêlerait, monsieur et madame Pénible iraient en prison et ça se trouve, je passerai à la télé. Alors, seulement je pourrai respirer. Mission accomplie, retournons à la case départ, au foyer, là où personne ne forcerait à lire un vrai livre le soir. Adieu, monsieur et madame Pénible.
Les 17 clés, au chaud, dans la poche de mon pyjama. Je me suis pressée vers la porte mystérieuse au premier étage, au fond du couloir. L'heure de vérité avait sonné.
J'ai franchi les derniers pas, le souffle à court, et j'ai introduit la première clé dans la serrure. Sauf que, pile au moment-là, j'ai entendu une voiture se garer devant la maison. Oh non, les pénibles, déjà! Je n'avais pas vu le temps passer.
Je me suis précipitée vers la salle de bain pour prendre ma douche, en pensant fort de très gros mots que je n'avais pas le droit de prononcer sur ce toit. Mais je ne perdais pas espoir. L'occasion d'agir se représenterait forcément. Et ce jour-là, on verra ce qu'on verrait.
Chapitre 4. À nous deux. En effet, deux longs jours plus tard, en fin d'après-midi, monsieur et madame Pénible m'ont proposé une promenade au parc des Biches, là où de petits dents venaient de naître.
J'adore cet endroit. On peut y escalader d'énormes rochers, grimper aux arbres et faire de longues balades à Doudane. Mais pas question de les accompagner. J'avais mieux à faire. Le moment... tant attendu, était enfin venu.
Sans montrer rien de mon excitation, j'ai soufflé en levant les yeux au ciel. Des biches et des dents, j'en ai déjà vu 100 fois. Je préfère rester devant la télé. Ils se sont regardés et m'ont juste répondu. Bon, eh bien, nous, on y va. Ne t'inquiète pas, on ne rentrera pas tard. M'inquiéter, ça ne risquait pas.
J'ai haussé les épaules et ils ont enfilé leur manteau, se sont émitouflés dans leur écharpe et m'ont fait un petit signe de la main auquel je n'ai pas répondu.
Yes, j'allais pouvoir introduire mes 17 clés dans la serrure de la porte, verte, sans être dérangée.
Par la fenêtre, j'ai regardé leur voiture s'éloigner dans l'allée. Puis, j'ai avalé une plaque entière de chocolat aux noisettes pour me donner du courage.
Ça m'a donné soif et j'ai vidé jusqu'à la dernière goutte de jus de fruits exotiques réservé au petit déjeuner. Juste après, j'ai inspiré très fort. Il était temps de passer à l'action. J'étais un peu stressée, mais sans doute, Mais c'est sans doute le cas de tous les héros qui s'apprêtent à affronter le danger pour faire éclater la vérité.
Ce n'est pas pour rien qu'au foyer des mésanges, mes amis m'appelaient la guerrière, celle qui n'a peur de rien, ni de personne, même pas de Michael l'éducateur, qui nous criait dessus à la moindre petite bêtise.
J'ai monté les marches au rythme de mon cœur qui battait fort. Quand je suis arrivée à l'étage, j'ai longé le couloir en faisant trinquer les clés au fond de ma poche. Enfin, je suis parvenue devant la porte verte et je l'ai regardée en face pour murmurer menaçante.
À nous deux, j'ai introduit ma première clé dans la serrure. Chapitre 5. Derrière la porte verte. 13 clés plus tard, j'ai commencé à m'inquiéter. Il ne me restait plus que 4. J'ai pris la 14e et plein d'espoir, je l'ai essayée. Oh, miracle! La clé s'est mise à tourner tout doucement. La porte a grincé, j'ai frissonné.
Les rideaux étaient tirés et j'ai cligné des yeux pour m'habituer. Peu à peu, j'ai commencé à distinguer ce qui m'entourait. Pas d'orphelin martyrisé, ni d'instrument de torture.
Juste une chambre avec un lit, sans drap contre le mur. Un bureau devant la fenêtre, une chaise empilée les unes sur les autres, une table à laquelle il manquait un pied, deux étagères vides, une vieille machine à coudre. Petit bric-à-brac, rien d'intéressant. Et le bruit, le souffle que j'avais entendu l'autre soir, c'était l'air qui s'enfouvrait par la fenêtre ouverte et faisait danser les épais rideaux. Je ne courais pas le moindre danger. Les lieux ne cachaient rien d'effrayant. J'avais tout faux. J'ai allumé la lumière et, à ma droite, j'ai vu un grand placard blanc sur lequel on avait peint des voitures. Je l'ai ouvert. Il était vide.
Puis, je me suis avancée vers la cheminée, sur laquelle était posé un gros vase rempli de jolies roses séchées. Juste derrière, j'ai vu une chemise cartonnée blanche. Je l'ai ouverte et j'ai trouvé une série de photos où l'on voyait chaque fois monsieur et madame Pénible plus jeunes, l'air heureux, en compagnie d'un petit garçon aux grands yeux qui leur ressemblait beaucoup, leur fils, à tous les coups. Il grandissait de cliché en cliché.
Sur la dernière photo, il avait 8 ans. Peut-être 8 ans pour toujours, parce que dans la chemise, j'ai aussi trouvé une petite enveloppe entourée de noir. Dedans, il y avait un faire-part entouré de noir, lui aussi, qui annonçait le décès de ce petit garçon.
Je n'ai pas lu en entier. Ce n'était pas la peine, j'avais compris, et de toute façon, je n'y voyais plus très bien. J'avais les larmes au bord des yeux, je les ai vite chassées du bout des doigts. Chapitre 6. Un gratin de pâtes. J'ai éteint la lumière et j'ai refermé la clé.
Dans l'escalier devant les photos, ceux qui m'avaient précédé, je me suis de nouveau arrêtée. Ils avaient vraiment l'air heureux. Peut-être que ces photos ne mentaient pas après tout.
J'ai reniflé songeuse. Pas de doute, les pénibles étaient pénibles, du genre « fais pas ci, fais pas ça ». Finis ta soupe, lave-toi les dents. Mais ce n'était pas louche ni méchant. Il ne cachait rien d'horrible derrière cette porte verte. Vraiment rien.
J'ai remis toutes les clés là où je les avais trouvées. Une part et une avant. D'aller dans la cuisine, j'ai sorti une casserole, l'ai remplie d'eau et l'ai mise à chauffer. J'avais envie de faire un gratin de pâtes. Ma spécialité, enfin plutôt le seul plat que je sais cuisiner.
Mais oui, bien sûr, on adore ça. Alors pour la première fois depuis mon arrivée, je leur ai souri, mais pas longtemps. Parce que Monsieur Pénible a aussitôt ajouté. Un peu de salade, ça serait bien avec un gratin de pâtes, non ?